Sans eux, nous ne saurions rien. En plus de 30 ans de jeux vidéo, ils ont gravé leur nom dans l'histoire. Producteurs, développeurs et game designers, ce sont les grands du jeu vidéo. Et ce soir, Gameblog.fr est heureux de revenir sur ces héros des temps modernes, avec cette semaine en invité exclusif, Satoru Iwata, président, directeur général de Nintendo Worldwide. Bon, alors, bien évidemment, vous l'avez compris, hein, les moyens de Gameblog étant ce qu'ils sont, Satoru Iwata est effectivement notre invité exclusif, mais nous n'avons pas de micro pour lui. Alors peut-être que vous ne l'entendrez pas vraiment. En revanche, vous entendrez le son de la voix de Raon. Salut Raon, ça va bien ?
Ouais, peut-être.
Peut-être, on n'est pas sûr encore. Angel, est-ce qu'on est un peu plus sûr au niveau de...
Ouais.
Oui, d'accord. Et Julo qui est avec nous aussi.
Oui, je suis là, effectivement.
Voilà. Et CAF pour parler.
Voilà. Et je suis le seul à ne pas être malade, en fait, c'est ça surtout.
Très bien. Je partage avec toi ce sentiment de pureté envers les microbes. Alors, Satoru Iwata, la saga de ce grand homme qui est Satoru Iwata, né le 6 décembre 1959 à Sapporo, donc bien évidemment au Japon. Il aura, vous l'avez compris, 48 ans dans quelques mois désormais, donc quelqu'un finalement d'assez jeune pour la direction d'une boîte de jeux vidéo dans l'absolu, mais quelqu'un qui a vraiment marqué ces dernières années. On va refaire rapidement sa bio, à commencer par ses études à l'université, où contrairement à certains grands noms du jeu vidéo, et je pense particulièrement à Shigeru Miyamoto, Satoru Iwata était déjà baigné complètement dans le bain du jeu vidéo. Il adorait ça, Julo. Je crois que d'ailleurs tu as une belle anecdote à ce sujet.
Ouais, effectivement, contrairement à Miyamoto qui était designer ou à d'autres qui faisaient complètement autre chose, lui il adorait les jeux vidéo et notamment quand il était à l'université, il développait des jeux chez lui le soir qu'il mettait dans sa calculatrice.
Ouais.
Et qui faisait jouer à ses potes à l'université. Quoi.
Donc ça veut dire qu'en France, les gens utilisent des calculatrices pour tricher et lui pour faire des jeux.
Voilà.
Très bien, très bien. Les Japonais sont formidables.
Moi, j'avais fait Street Fighter sur Casio quand même.
Ah bah écoute, hein, on voit ça à Nintendo ou Capcom
en textuel, c'était vachement bien.
Superbes. En tout cas, il intègre ensuite la Tokyo Institute Technology. Donc on le sent vraiment, hein, lui, vraiment, sa passion, c'était ça. Hein,
c'est orienté vraiment directement vers ce qu'il voulait faire. Quoi.
Donc on avance un petit peu dans les années, on arrive désormais en 1982. 1982, c'est l'arrivée de Satoru Iwata à HAL Laboratory, donc une filiale de Nintendo. Sur lequel en fait il était au début employé à mi-temps, Julo.
Ouais, il a commencé à mi-temps pour finir en fait son troisième cycle d'études. Mmh. Et donc une fois qu'il a fini ça, il a été embauché à plein temps ensuite, quoi.
Voilà. Donc Satoru Iwata à cette époque-là alors contribue à des jeux plus ou moins réputés comme Balloon Fight, Earthbound qui cartonnait à l'époque au Japon, et aussi Kirby. Alors Kirby, vraiment, ça a lancé un petit peu la carrière de Satoru
Iwata.
Oui,
alors. On dit que c'est Julo. Lui qui a créé Kirby, etc. En fait, c'était principalement Masahiro Sakurai qui avait inventé le personnage et le concept du jeu. Mais lui est arrivé derrière avec son talent, on va dire, et il a porté le projet, etc. Et ça a été un grand succès. D'ailleurs, on en avait parlé à l'époque du podcast de Miyamoto.
Ouais.
Donc, c'était un jeu qui s'appelait Twinkle Popo au départ et qui avait été plus ou moins repris par Nintendo. Et donc voilà, ça a été le succès qu'on a connu.
On vous invite à
réécouter. C'était le premier nom de Kirby, voilà.
Ouais, réécouter le podcast sur Miyamoto où on apprenait pas mal de choses, comme la table renversée, ce genre de choses.
Tout à fait.
Là, vous allez apprendre d'autres choses sur le futur. Vous allez voir dans quelques temps dans ce podcast. Président de Nintendo. Mais avant ça, il a été président de HAL. Donc après avoir été simple employé en 93, donc 11 ans après ses premiers pas dans cette société, il devient président de cette société. Et à cette époque-là, on commence à ressentir un petit peu ses véritables talents de game designer à l'époque.
Ouais, alors on n'a pas exactement les détails, mais on sait qu'il a plus ou moins redressé la compagnie, quoi, qu'il l'a sauvé, entre guillemets. Voilà.
J'aime bien laisser un petit blanc.
Non, c'est pas ça, c'est que c'est à ce moment-là qu'il a été plus ou moins repéré, on va dire, par Yamauchi. Qu'il a embauché ensuite chez Nintendo Corporation.
Voilà, dans la maison mère. Voilà. Alors là, on va accélérer un petit peu l'histoire et on va arriver désormais au 31 mai 2002. C'est une date véritablement clé dans la carrière de Satoru Iwata. Moi que Julo, je sens ton regard.
Je peux me permettre un petit retour en arrière.
Écoute, je te l'offre.
Non, c'est-à-dire que en fait, après ses études, une petite anecdote à la con. Après ses études, quand il a décidé de bosser définitivement pour Al Laboratory, son père ne lui a pas parlé pendant 6 mois.
C'est vrai.
Voilà, parce que il pensait qu'il faisait un mauvais choix de carrière. Ouais. Hein, voilà, donc les jeux vidéo, tout ça. Bref, il lui a fait la tronche. Voilà. Il a fait la tronche pendant 6 mois, ignorant qu'il était de l'avenir qu'il guettait, quoi.
Ouais, ça, on va voir après qu'effectivement, Satoru Iwata, je pense qu'il n'a pas raté sa vocation, hein, très clairement. Donc, on revient à ce fameux 31 mai 2002. Alors, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez hallucinant. On en est à la fin de la carrière de Hiroshi Yamauchi, qui est le grand patron emblématique de Nintendo des années 80-90.
La fin de carrière qui avait été repoussée sans cesse l'époque. Ouais, parce qu'il devait abandonner à l'époque de la N64 ou alors juste après, etc. Enfin... Il était finalement toujours resté aux commandes de Yamauchi.
Ah bah c'était l'empereur de Nintendo, hein. Il a quand même pris ses fonctions en 1949, donc je ne sais pas si vous imaginez, 1949-2002, ça fait quand même plus qu'un double septennat.
Bah c'est lui qui a transformé Nintendo en compagnie de jeux vidéo. Quoi,
ouais, puisqu'on rappelle, hein, Nintendo à la base, c'était
des cartes à jouer,
du riz, et puis des occupations un peu plus obscures dans des hôtels qu'on appelle les Love Hotels. Voilà. Donc là, Julo, je crois que tu as une anecdote assez énorme sur... l'intronisation de Satoru Iwata.
Ouais, non, c'est-à-dire que ça faisait un moment qu'il travaillait pour Nintendo. Mm-hmm. Et donc, ce jour de mai 2002, c'est ça, il a été appelé dans le bureau de Yamauchi, qui lui a fait, pas la morale, mais qui lui a fait un discours qui a duré pendant 2 heures sur ce qu'était Nintendo, ce qu'il est devenu et pourquoi, et qu'est-ce que c'est que l'esprit Nintendo, etc. Et lui était persuadé, en fait, que c'était un entretien qui allait aboutir à
un renvoi.
Voilà. Il était persuadé qu'il était en train de se faire virer. La morale, voilà, pour se faire virer. Et il s'est trouvé qu'à la fin de l'entretien, Yamauchi lui a proposé sa place. Voilà.
Ça, c'est quand même la super classe. Ça veut dire que c'est vraiment dans l'esprit purement des sociétés japonaises. C'est assez impressionnant. On n'imaginerait pas ça en Occident, hein, quelque part. Surtout qu'il ne faut pas oublier quelque chose d'assez énorme au sein de Nintendo. C'est que Satoru Iwata est uniquement le quatrième président de la société Nintendo. Et c'est le premier, tout premier, à ne pas appartenir à la famille Yamauchi.
Ouais.
De la lignée, que ce soit par des mariages ou quoi que ce soit. Mais c'est le premier non-Yamauchi à diriger la société Nintendo. Donc là, on se trouve en 2002, c'est l'émergence de la GameCube. Et là, tout de suite, donc 31 mai 2002, on est vraiment à la période de l'E3. Et c'est la première fois qu'on voit apparaître quelque chose qui va faire se poser certaines questions aux journalistes que nous sommes et aux joueurs que vous êtes. C'est la Nintendo Différence, la fameuse Nintendo Différence qui aura été après, à partir de là, martelée à l'envi. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à cette époque-là, elle n'était pas flagrante. On se rappelle uniquement de certains jeux un petit peu différents et puis surtout de cette fameuse connexion de la GameCube avec la GBA qui finalement a été très vite avortée, enfin qui n'a pas donné énormément de choses.
C'était clairement plus un argument marketing.
Ouais. Ouais.
Moi, j'ai le gap pourtant, hein. J'ai le câble, il me sert à rien.
T'as servi à peu près 0 jeu.
Si, il m'a servi à Zelda avec le lutin.
Tu l'as pas payé, rassure-moi, tu l'as pas payé.
Écoute, j'arrive pas à me rappeler. C'est plutôt bon signe.
Moi, il m'a servi pour Final Fantasy Crystal Chronicles, qui était une très grosse déception. Voilà.
Donc franchement, pendant quelques années, la fameuse Nintendo Différence, après avoir soulevé pas mal d'interrogations et d'espoir quelque part, puisque Nintendo avait quand même quelques difficultés à cette époque-là, c'est devenu un peu un sujet de raillerie. Jusqu'au jour où Satoru Iwata justement nous parle d'un projet de Nintendo dans lequel il évoque un fait simple. Il dit, écoutez, on est en train de développer quelque chose, si ne serait-ce que 10% des gens qui l'auront trouvent ça sympa et peuvent en parler un petit peu, franchement déjà on sera très contents. Bien évidemment, ce projet dont je suis en train de parler, c'est la sortie de la DS, le successeur de la Game Boy Advance. Et là, la DS, ça lance tout, hein, pour le nouveau Nintendo, Julo.
Yamauchi avait déclaré à l'époque que la DS, ça allait fixer le sort de Nintendo, dans le sens où lui, il croyait réellement en la Nintendo Différence, l'esprit Nintendo, l'évolution, les nouveaux concepts, etc. Et il s'était dit, voilà, si ça s'est rejeté, c'était évidemment pas la fin de Nintendo d'un point de vue économique, c'était pas la banqueroute, etc., mais c'était la fin de l'esprit Nintendo, si jamais cette console marchait pas. Et c'est évidemment le départ de tout, finalement.
Et c'est une époque aussi où commençait à avoir des rumeurs sur un potentiel rachat de Microsoft Nintendo par Microsoft.
C'était des rumeurs,
mais le simple fait de pouvoir l'évoquer, montrait quand même la situation de Nintendo qui avait vraiment changé avec un leadership incroyable de la part de Sony et puis Microsoft qui arrivait
fort. C'est surtout la pensée de tout le monde que Nintendo était en position de faiblesse. Alors qu'en réalité, déjà en termes de société, ça n'a jamais été le cas.
Oui, ils ont toujours eu les caisses pleines avec leurs jeux maison qui se vendaient très bien.
Sur GameCube,
c'est une société qui a toujours eu une santé financière en béton. Quoi.
Mais une époque effectivement charnière un peu plus compliquée, surtout que son grand concurrent des années passées, Sega, était en train d'abandonner un petit peu le navire du hardware avec la Dreamcast, aussi bonne qu'elle était, était en fin de vie et allait être la dernière console de salon de Sega. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes se posaient un petit peu des questions sur ces deux grands pionniers emblématiques du jeu vidéo.
Et c'est surtout qu'en plus, à côté de ça, la PlayStation rayonnait. Ouais. Mais c'était incroyable. Sony s'était lancé dans l'arène et avait tout cartonné. Ouais. Ils avaient imposé une autre vision aussi du jeu vidéo. Hein, quand même, faut revenir à l'époque en question. PlayStation, c'était une marque qui rayonne d'ailleurs encore aujourd'hui pour ça, qui avait une image différente de ce qu'était le jeu vidéo à l'époque.
Justement, pour beaucoup de personnes à cette époque-là, la Nintendo différence, ça se limitait à... Oui, votre différence est de plaire aux fanatiques de Nintendo, mais de ne parler qu'à eux. Et c'était un peu triste. On se posait quand même beaucoup de questions à ce moment-là.
On rigolait pas mal.
Ouais. Ouais. Donc la DS est arrivée, et franchement, ça a tout chamboulé, et instantanément...
Ça a pris le temps quand même, un petit peu.
Ah, c'est quand même venu assez vite. Hein.
C'est venu assez vite, mais en termes de jeux, etc., on a quand même mis un petit peu de temps. Au début, il y avait beaucoup de petits jeux. C'est donc toujours un syndrome qu'on peut lui reprocher à l'heure actuelle.
C'est la même problématique qu'on connaît aujourd'hui avec la Wii, en fait.
Voilà, c'est effectivement
Est-ce que ça va se développer de la même façon ou pas? On ne sait pas encore. Mais...
Finalement, la question, c'est ça. C'est que la DS a bien évidemment surpris les joueurs, mais a sûrement aussi surpris les développeurs. Ce qui explique un petit peu ce délai entre le lancement de la machine et l'arrivée des, entre guillemets, vrais jeux exploitant la machine qu'on retrouve aujourd'hui un peu sur la Wii.
Oui. C'est sûr qu'il faut, un certain temps pour s'adapter à ce type de nouveautés. Quoi. Mais bon, si la DS est un exemple à suivre pour la Wii, on sait qu'on y arrivera sur la Wii aussi.
Puis on voit les chiffres récents de la DS, parce qu'après la DS normale, le Uber Tanker DS, tout en plastique et un peu raté au niveau du design, et il faut l'avouer sur la première, la DS Lite, c'est le véritable raz-de-marée.
Oui, mais d'ailleurs, en fait, le comeback de Nintendo par rapport à ça est très similaire, non seulement par rapport au design des machines, mais par rapport à la philosophie de manière générale avec le comeback d'Apple. Quoi.
Julot ?
Et puis, par rapport à la philosophie de Nintendo à la base également, parce que en fait, quand Yamauchi a annoncé que Iwata serait le nouveau président, etc., c'était dans une conférence de presse. Alors, on lui a notamment reproché est-ce qu'il n'est pas trop jeune, etc. Yamauchi avait répondu non, il est pas trop jeune. Et au contraire, le fait qu'il soit jeune, ça va permettre d'ouvrir Nintendo un peu en dehors du Japon, de le faire rayonner, d'aller plus à l'étranger, de plus ouvrir Nintendo à l'international, etc. Et surtout, il avait dit que Iwata incarnait réellement, en fait, la Nintendo différence, l'esprit Nintendo, etc. Donc, notamment, Yamauchi, à ce moment-là, avait dit comme un dernier mot aux équipes de Nintendo avant de partir, que le challenge, ça allait être d'innover, de plaire aux joueurs par la nouveauté, etc., tout en restant dans des coûts de développement identiques à ceux de la génération actuelle, donc la GameCube à l'époque. Et il avait dit à l'époque que c'était peut-être un peu utopique, mais qu'il était sûr de voir ça de son vivant. Et je pense que même quand il a dit ça, il ne pensait pas le voir aussi vite, en fait. Et il a complètement incarné l'esprit Nintendo tout en renouvelant avec les nouveaux concepts, etc. C'est ce qu'il a fait, c'était le grand pari de Nintendo et c'est le pari complètement réussi.
Justement, je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur le terme incarner la différence de Nintendo, parce que finalement, Yamauchi, qui était le patriarche de Nintendo, on le voyait, on l'entendait assez rarement, sauf quand il avait quelques coups de gueule, qu'il voulait envoyer des pics à Sony, des pics à Sega. Mais il n'y avait pas énormément de directives. Bien évidemment, en interne, il avait un rôle très important. En revanche, Satoru Iwata, c'est le premier président de Nintendo qu'on a vu arriver sur scène à chaque E3, qui arrivait généralement en fin de conférence et qui avait des discours très décalés de ce qu'on entend. Par exemple, quand Sony ou Nintendo, leur président arrive et font un discours, c'est très marketé et ça parle des jeux.
Microsoft. C'est-à-dire Sony et Nintendo.
Effectivement, Sony et Microsoft. Alors que Iwata était là, par exemple, lorsqu'il a, dans les deux trois premières années de la Nintendo différence, il faisait limite des grands discours un peu philosophiques, pour expliquer, mais par A plus B, sa vision de joueur et sa vision du jeu vidéo dans l'avenir. Et à chaque fois, il fallait toujours attendre un grand délai de 1 à 2 ans avant de le voir se concrétiser. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours annoncé en amont ce qu'il allait faire dans les années à venir. Et ça, c'est vraiment très intéressant.
Et ça, des dents avaient grincé à l'époque parce que il incarne l'esprit Nintendo à tous les niveaux et même au niveau des trucs qui nous ont un peu énervé à l'époque, notamment le fait qu'il ait complètement freiné la course au online. Lui, au moment où la Xbox allait à fond sur le live, que Sony développait également des trucs, etc., lui disait non, clairement, le online, non, on n'y va pas. On n'y va pas tout de suite, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment. On ira plus tard, quand le broadband sera partout, qu'il y aura une façon de le faire simplement, facilement et gratuitement. Voilà, c'était son.
Et c'est,
son
aussi,
point de vue,
lui, c'est aussi lui qui a freiné sur l'espèce de. De d'hémorragie, enfin de course à la puissance des deux constructeurs adverses, Sony et Microsoft. Nintendo a toujours, enfin, par la voix de Satoru Iwata, a toujours dit nous ne nous engagerons pas dans cette course-là, nous choisirons une autre voie et nous voudrons toujours nous occuper du jeu vidéo.
C'est une grande première à l'échelle du jeu vidéo. Oui, c'est la première fois que, sur chronologiquement, sur une même génération, tu as une console qui est clairement inférieure au point de vue puissance brute que les deux autres.
Tu veux rebondir, Géo ?
Non, c'est Satoru Iwata. Il adorait en fait prendre l'exemple de Pokémon, qui est un ultra million seller, etc.
Et qui n'est pas deux à la base.
Voilà, c'était le modèle de base, c'est-à-dire un jeu ultra simple, pas compliqué, pas cher à développer, mais qui a engendré un maximum de gamers, quoi.
Alors. Là, on a parlé de la DS, bien évidemment, vous l'avez compris, il y a aussi la Wii qui révolutionne un peu tout, la Wii qui est finalement la concrétisation des souhaits de la DS, quelque part. On a essayé avec la DS, on a pris nos marques sur jouer différemment avec la DS, et puis on y va encore plus fort avec la Wii, qui était aussi un pari assez énorme aussi, justement, ne pas s'intégrer dans le côté jeu vidéo purement graphique, jeu vidéo de plus en plus mature, mais plutôt vraiment une appréhender le jeu différemment. Et on voit quel succès ça remporte. C'est quand même assez
C'était un risque gigantesque quand on y pense.
Économiquement.
Parce que là, aujourd'hui, on est là à regarder les charts chaque semaine en disant que Nintendo est le king, etc. D'ailleurs, Yamauchi, quand il aimait parler de Nintendo, de Sony à l'époque, en disant que voilà, vous mettez toujours Sony sur le devant de la scène, etc. Il ne faut pas oublier qu'ils sont tout nouveaux dans le business, ils ont connu un succès, mais la roue peut tourner aussi vite. Et Nintendo revenir sur le devant de la scène.
En même temps, il ne pouvait pas décemment dire d'autres choses.
Non, mais voilà quoi. Il croyait à la Nintendo différence. Il a choisi Iwata parce qu'il incarnait cette différence. Et Iwata, il a pris les choix qu'aurait pris Yamauchi. Il ne faut pas oublier, là, oui, c'est une GameCube x2. C'est quasiment. Enfin, et encore
pour l'instant, on a
du mal à le voir. Ouais. C'est une GameCube quoi, avec une nouvelle manette, quoi, en fait. Quand ils pensent, c'est un pari gigantesque. Et voilà, ça a cartonné.
Alors, il y a aussi une autre grosse différence avec Yamauchi, c'est Satoru Iwata est quelqu'un qui sourit. Parce que Yamauchi est quand même quelqu'un d'assez sévère, qui ne parlait qu'en japonais. Qui a toujours raison, on ne peut pas le contredire. Satoru Iwata sourit. Essaye de parler anglais.
Il est clairement plus ouvert à l'Occident, quoi.
Mais oui, c'était le principe justement de sa jeunesse, voilà quoi. C'est que et puis Nintendo a beaucoup changé. Rappelez-vous à l'époque quand on était sur pad, etc. Nintendo on n'obtenait rien, etc.
Non, mais c'était même pas. On cherchait même pas à l'avoir. C'était juste pas possible. On le savait, quoi.
On savait. Moi j'avais fait un reportage sur le dernier Zelda. À l'époque c'était pour console plus. On a été chez Nintendo, le jeu n'était pas sorti, on allait le voir en plein développement.
C'est
on a interviewé.
C'était la première fois que des étrangers
c'était énorme.
Dans le sein des seins. Quoi.
Voilà. C'était une vraie différence avec le Nintendo de l'époque. Quoi. C'est
c'était juste
vraiment
à l'époque,
ouvert.
Ça n'aurait pas été possible du tout. Quoi. Ouais. C'était juste. On n'en parle même pas. Quoi. C'est pas possible. Non, vous n'allez pas chez Nintendo, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas possible. Donc après, Nintendo, ils peuvent toujours être un peu fermés aujourd'hui par rapport à d'autres. Mais c'est vrai que depuis que Iwata est en place, ça s'ouvre petit à petit.
Et puis, une autre chose qui s'ouvre, mine de rien, c'est Miyamoto. Miyamoto et Satoru Iwata sont deux personnes à peu près de la même génération. Et l'explosion, ça c'est en anglais, l'explosion médiatique, on va dire, de Shigeru Miyamoto coïncide aussi avec un peu l'arrivée de Satoru Iwata qui a vraiment voulu faire de Miyamoto sa star, son développeur numéro 1, son créateur, parce qu'on a besoin de visages aussi dans le jeu vidéo.
Miyamoto, jusqu'à présent, à l'époque de la Super Nintendo, les fans connaissaient son nom, mais sorti de là, c'est tout, quoi. Alors que maintenant, ça devient vraiment...
Sur N64, figure, déjà un peu à l'époque, mais c'est vrai qu'il a boosté, tous ces éléments-là, quoi.
Donc finalement, c'est quelqu'un qui a une vision à la fois marketing, parce que tout est très, très, très bien géré au niveau du marketing de Nintendo.
C'est clair.
Une vision vraiment gamer aussi, c'est-à-dire qu'il sait ce qui plaît et il le donne avec des jeux un peu plus gamer, et il sait ouvrir sa cible.
Non, mais
il sait ouvrir aussi sa cible et donc déplaire aux gamers avec du casual gaming qui est violemment accepté par les gens qui ne sont pas très fans de jeux vidéo, mais qui s'y retrouvent avec quelque chose de très ludique. Il n'a vraiment pas perdu cette notion du plaisir dans le jeu.
Ouais, mais à l'heure actuelle, à mon avis, tu interroges la plupart des gros gamers hardcore. Ils ne sont pas forcément persuadés que Iwata, c'est l'incarnation de ce qu'il y a de gamer chez Nintendo, quoi.
Alors, justement, là, un petit tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces combien maintenant, de ces 5 années, de ce premier quinquennat à la tête de Nintendo de la part de Satoru Iwata ? L'orientation, les résultats. CAF ?
Si j'étais actionnaire, je serais ravi. Mmh. Faut être clair.
Ouais. On rappelle juste que Nintendo est devenue la cinquième société japonaise, voilà, devant des énormes noms comme NTT, Honda et bien évidemment Sony.
Non, mais de ce point de vue-là, du point de vue économique, il a tout cartonné. Maintenant, d'un point de vue purement ludique, oui, j'aimerais bien l'allumer plus souvent, mais... Je ne représente pas le grand public, encore une fois. Donc forcément, il y a des titres qui vont m'intéresser, des titres dont on a parlé la semaine dernière. Il y a des titres qui... Moi, quand je vois le Wii Fit, je sais que j'en aurai jamais chez moi. Enfin, il faudra vraiment que ma femme
veuille l'essayer. Pourtant, tu
devrais. Mais non, même pas. Ça ne suffira pas pour moi. mais franchement, c'est...
Parce que ça va vous tourner.
Oh oui, je sais. Tu sais, j'ai une vraie balance. J'ai pas besoin du Wii Fit, tu vois. 100 tout rond.
Ah, c'est joli, c'est joli.
Attends, ça bouge pas.
Exactement.
Mais franchement, c'est vrai que d'un point de vue purement gamer, ouais, oui, on s'emmerde un peu quand même.
Mm-hmm. C'est l'éternel débat sur le casual gaming, le
hardcore
gaming,
qu'on a eu quelques semaines.
Mais c'est un peu le truc passionnant qui est en train de se passer en ce moment dans notre univers, quoi. Il y a quelque chose qui change.
On ne sait pas exactement
où on va. Satoru Iwata, donc comme on l'a dit au départ de ce podcast, c'est un gamer à la base. C'est un mec qui aime les jeux vidéo, qui les a développés, etc. C'est un mec qui incarne véritablement l'esprit de Nintendo.
Oui, non, mais je suis limite pas d'accord. Je trouve qu'il est même à la limite plus fort dans le marketing et dans le business que dans le jeu vidéo pur, dans le sens où on l'entend, nous, passionnés de jeux vidéo. En termes de business, il a pris un pari, il a pris des risques énormes, il aurait pu se planter, mais il a dû faire ses focus groups, ses machins, ce que tu veux, mais enfin, on connaît la validité de ce genre de trucs. C'est vraiment bien d'arriver à avoir fait ça. Maintenant, c'est d'un point de vue économique pur. Mais c'est
clairement quelqu'un qui bouleverse le jeu vidéo.
Voilà, maintenant, il a mis la pression à tout le monde en attendant. Ouais,
c'est clair.
C'est un peu pour ça qu'on lui dédie un podcast en même temps. C'est quand même une force importante de l'univers dans lequel on gravite. Mais
Il est au cœur exactement de tout ce qui est en train de se passer. À l'origine de tout ce qui est en train de se passer, en fait.
Oui et non, parce que c'est pas Nintendo, il faut quand même être objectif. Nintendo, c'est pas les seuls à faire des mouvements vers le casual, c'est pas les seuls à essayer de conquérir des nouveaux publics. C'est peut-être ceux qui y arrivent de la manière la plus flagrante et qui effectivement ils font un tel carton que tout le monde en parle. Donc évidemment, d'accord.
Faut pas oublier les essais de Sony avec des jeux comme Buzz, Star.
Mais oui, et puis Sony y a pensé avant, Microsoft
aussi.
Sauf
que Nintendo, ils en ont fait leur politique de base, quoi. C'est là qu'ils sont partis et qu'ils ont pris des risques pour
en arriver là. Bien entendu, mais c'est pas les seuls non plus. C'est pas les seuls à penser que le jeu vidéo a besoin d'aller voir ailleurs pour grandir.
J'aimerais bien entendre l'avis d'Angel.
Non, mais là-dessus, enfin, je dirais, quand Sony est arrivé avec le PlayStation, à l'époque, enfin, moi je me souviens des pubs et ils essayaient déjà de taper dans le grand public. D'accord, c'était pas aussi large que ça, mais c'était les pubs pour la Sony PlayStation, c'était jeune, cool, ouais, on y va, vas-y, on joue.
Ouais, c'était pas la même optique non plus. Hein.
C'était pas aussi large, mais ils tapaient déjà dans le grand public.
Non, mais ils ouvraient le marketing, en fait.
Voilà, Nintendo a juste passé l'étape supérieure, on va dire. Voilà,
Nintendo s'ouvre au très grand public.
Voilà, ouais, ils l'ont fait avec le produit, pas juste avec des mots, pas juste avec des images, des pubs, etc. Ils l'ont fait avec un produit qui vraiment véhicule ça et qui vraiment essaye de faire jouer monsieur, madame, tout le monde.
Julo, pour conclure,
au final, je sais pas si c'est un ange ou un démon, quoi. Voilà, c'est parce que pour repartir sur casual core gamer, voilà, c'est ça. Je sais pas où va la Wii, la DS, j'en suis plus satisfait finalement qu'il y a quelques mois, etc.
DS, on verra. DS, qui a quand même
en tout cas, il est en train de, il est en train de changer quelque chose.
Ouais, mais
je
ne
sais pas
premier,
si je dois en être content ou pas.
Tu es le premier à dire que la Wii va suivre le même chemin que la DS pour toi.
Ah, j'espère, c'est ce que j'espère. Et là, bon, on en parlait dans le dernier podcast. J'ai Metroid, j'ai kiffé. Il y a Mario Galaxy qui arrive. Il y a, voilà, il va se passer quand même des choses pour les joueurs que nous sommes. Voilà, core ou hardcore. Voilà.
Angel veut réagir.
Non, moi je fais une connerie. Je veux dire, avec le pognon qu'il a, il devrait quand même se payer un coiffeur.
Ah oui.
Certes.
D'ailleurs, Raon, je crois que tu trouves une certaine similitude entre.
Raon n'a rien à dire sur les coiffeurs.
Voilà. Entre Satoru et
Iwata. Il va jamais. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui, oui, non, c'est vrai qu'à chaque, enfin, on le voit maintenant, on le voit à chaque présentation qu'il peut y avoir à l'E3 ou chaque conférence de presse qu'il y a, il y a Iwata dans le tas. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il a la même manière de faire des présentations que Bill Gates, mais adapté un peu à la Jap, tu vois. C'est-à-dire qu'il a les mêmes mouvements de main, un peu Égypte, machin, bidule, un peu chelou, un peu coincé, avec un côté gay que Bill Gates n'a pas.
Non, mais Bill Gates, il fait le pingouin. Il est comme ça avec son pointeur, je peux pas vous le faire, mais il a les deux mains près du corps sur le haut de sa chemise. Et de
et Iwata, il est un petit peu comme ça, tu vois, toujours les mains jointes, et puis t'en as une qui part d'un côté à un moment donné, puis t'en as une autre qui part de l'autre.
Le directeur de la com de Gates, il a dû dire arrête avec les mains, arrête maintenant.
Bon, ils sont peut-être le même directeur de com.
Il est tout crispé.
C'est deux personnes qui ont un peu de mal à lire un prompteur.
Voilà, mais voilà, c'est deux personnes mal fringuées avec un pognon pas possible, comme quoi. Voilà.
Écoutez, si je suis juste d'être mal fringué pour avoir du pognon, j'en connais certains. Il serait richissime. Enfin,
on a les noms.
Ouais, on peut vous en citer. Ok, donc bon, en tout cas, on est tous d'accord pour dire que Satoru Iwata a redynamisé en tout cas Nintendo, a mis cette société sur de nouveaux rails, très clairement. Où est-ce que ça va nous mener, nous joueurs? Très honnêtement, je crois que c'est assez compliqué de pouvoir le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une nouvelle voie qui est passionnante à suivre et qui, en plus... T'écoutes ce que je dis, toi?
Non.
Intéressante à suivre, surtout qu'elle est très étudiée par ses deux principaux concurrents, que sont Microsoft et Sony, qui, mine de rien, ne serait-ce que pour faire autant de billets verts que Nintendo, sont en train de s'en inspirer et nous préparent sûrement des choses, eux aussi, des réponses assez intéressantes. On l'a vu déjà, par exemple...
Comment est né le 6-axis?
Non, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Le 6-axis, c'est une réponse évidente.
Le 6-axis est né un an après la présentation de la Wiimote.
Rappelez-vous tous la manette.
Les premiers à avoir fait un pad avec détection de mouvement, c'est quand même Microsoft sur PC.
Exact.
C'est vrai. Mais qui a eu le premier à inventer la croix multidirectionnelle? Qui le premier a inventé les vibrations dans une manette? Qui le premier a inventé
les boutons de tranche?
Qui le premier a inventé le stick analogique? C'est Nintendo.
C'est Apple. Ouais, mais on sur Apple 2, il y avait un stick analogique
qu'on n'a pas eu sur PS3.
qu'on regrette pas.
Bizarrement.
Voilà. Bon, mais écoutez, c'était à peu près le point que nous pouvions faire sur Satoru Iwata, président, directeur général de Nintendo Worldwide. En tout cas, un nom à suivre. Pour nous suivre, il suffit juste de cliquer sur les autres liens qui sont là devant vos yeux sur gameblog.fr. Et puis sinon, pour les podcasts, donc ça c'est de la voix, on se donne rendez-vous mercredi prochain, comme d'hab, même heure, même lieu, même site. À très vite. Ciao, ciao.
Salut.